Laudetur Jesus Christus.
Trêve acceptée par le Hamas dans la bande de Gaza, reste à peaufiner les points d'accord aujourd'hui au Caire malgré le refus israélien, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs l'armée israélienne de lancer son offensive sur Rafah. Le point de passage de la ville avec l'Égypte est sous son contrôle et partiellement hors de service. Lancement au Mali par le chef de la junte d'un dialogue national, objectif trouver des solutions à la crise que traverse le pays sans aide extérieure. L'Union européenne lève la procédure d'infraction contre l'état de droit à l'encontre de la Pologne. Varsovie résout un à un les litiges qui l'opposaient ces dernières années à Bruxelles. Vladimir Poutine ordonne des exercices nucléaires à son armée en réponse aux propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi possible de troupes de l'OTAN en Ukraine et à ceux de David Cameron sur l'utilisation de missiles britanniques contre le territoire russe. Xi Jinping en France pour une visite d'État. Le président chinois a beaucoup parlé économie avec son hôte français. Les relations économiques entre la Chine et l'Union européenne sont au cœur de cette visite d'État. On y revient dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Espoir d'une trêve dans la bande de Gaza, le Hamas a donné son feu vert hier, mais rien n'a encore été signé. Une délégation du Qatar doit se rendre au Caire aujourd'hui pour poursuivre les consultations. Mais dans le même temps, l'armée israélienne a lancé son opération terrestre contre la ville de Rafah, après avoir appelé les civils à quitter certaines zones de la ville. À Jérusalem, le point avec Valérie Ferron.
Après avoir refusé la dernière proposition sur un cessez-le-feu accepté par le Hamas, Israël a aussitôt intensifié ses bombardements dans l'ensemble de la bande de Gaza et plus particulièrement dans la ville de Rafah où les chars sont entrés durant la nuit. Ils se sont notamment dirigés vers le poste frontalier avec l'Égypte et ont commencé à détruire les installations pour le transit des passagers dans la partie palestinienne de ce poste frontalier transformé en octobre dernier en point de passage pour l'aide humanitaire. L'armée israélienne avait ordonné hier matin aux familles installées dans les quartiers orientaux de la ville de Rafah d'évacuer vers des zones dites humanitaires, mais qui, selon les Nations Unies, sont déjà surpeuplées et manquent de services de base. La famine, déjà très présente dans la région nord de la bande de Gaza, risque donc de s'étendre très sérieusement à la région sud, avec l'arrêt total de l'entrée de l'aide humanitaire par le poste frontalier de Rafah, plongeant ainsi 1,5 million de personnes, dont 600 000 enfants, dans une situation apocalyptique. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Israël a donc lancé son offensive malgré la réprobation générale dès les demandes d'évacuation de la population civile palestinienne hier matin. Les Nations Unies ont condamné toute invasion de Rafah, la qualifiant d'intolérable. Les États-Unis avaient mis en garde leurs alliés sans résultat. Début du dépouillement des bulletins de vote hier soir au Tchad. À l'issue de la journée de vote pour la présidentielle, deux candidats ont dominé les débats. Le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, fils de l'ancien président mort il y a 3 ans, et son premier ministre, Succé Masra, ancien opposant. Les résultats devraient être connus le 21 mai. Un éventuel second tour serait organisé le 22 juin si nécessaire. Au Mali, pas d'issue électorale pour le moment à la transition, dominée là aussi par l'armée. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a cependant lancé hier un dialogue national en vue de trouver des solutions aux problèmes du pays sans intervention étrangère. Les précisions à Niamey d'Abdulrazak Idrissa.
Ils sont environ 3000 participants à prendre part à ce dialogue. Ils ont jusqu'au vendredi prochain pour finaliser les propositions et recommandations formulées lors des étapes communales et régionales. Voulu par les autorités de transition, ce dialogue a pour but de ramener la paix dans le pays, mais d'autres sujets comme la prolongation de la transition seront également débattus. Présenté comme un processus 100% national par opposition au caduc accord de paix de 2015 signé avec les groupes armés du Nord sous l'égide d'une médiation internationale, plusieurs parties maliennes sont néanmoins absentes à ce dialogue. Il s'agit notamment des rebelles du Nord et certains partis politiques du pays. En lançant les travaux de ce dialogue, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a rappelé que depuis des années, le Mali s'est retrouvé dans une situation conflictuelle complexe sur laquelle il n'avait aucune emprise. C'est pourquoi, dans une dynamique patriotique et salvatrice, nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux sans intermédiaire pour dessiner une nouvelle architecture de la paix et de la réconciliation nationale, a déclaré déclaré à Simi Goïta qui a souhaité que le dialogue contribue à la restauration de la paix dans un esprit de franchise et de patriotisme. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
Une barbarie qui constitue un déni de l'humanité. C'est ainsi que les évêques de la République démocratique du Congo définissent le bombardement vendredi dernier d'un camp de déplacés à Goma dans l'est du pays. Une dizaine de personnes ont été tuées. La CENCO condamne donc et s'étonne que les belligérants aient pu se combattre à cet endroit précis. La conférence épiscopale congolaise réclame une enquête de l'Union africaine et des Nations unies et appelle le gouvernement congolais à la fermeté et à l'efficacité. Hier soir, une veillée de prière était organisée à Goma pour les victimes. Fin du contentieux entre Bruxelles et Varsovie. La Pologne était depuis 2007 sous le coup d'une procédure enclenchée pour ses manquements envers l'état de droit. Mais la présidente de la Commission européenne a estimé qu'il n'y avait plus de risque clair de violation grave en la matière. Pour Ursula von der Leyen, la Pologne a résolu ou est en passe de résoudre l'ensemble des litiges qui la mettaient en porte-à-faux avec les valeurs européennes. À Bruxelles, les détails avec Pierre Benazé.
Après 2015 et le retour au pouvoir du PiS, le Parti Droit et Justice, le gouvernement polonais avait mis en œuvre une série de réformes qui touchaient au fonctionnement de la justice. La grande majorité de ces réformes ont été vues comme contraires aux valeurs européennes. Ceci a entraîné le déclenchement de l'article 7 par le Conseil européen, une procédure de sanction dans le cas d'un risque de violation grave de l'état de droit. Elle peut, en théorie, aller jusqu'à la suspension du droit de vote du pays concerné au sein du Conseil européen, mais ceci doit être voté à l'unanimité et la Hongrie de Viktor Orban a toujours soutenu la Pologne dirigée par le PiS. Entre-temps, la Commission européenne avait aussi lancé plusieurs procédures d'infraction. On avait même vu la Pologne contester la primauté du droit européen. Entre l'indépendance des juges et des procureurs, la chambre disciplinaire des magistrats, le Conseil national de la magistrature, la mise à la retraite des juges de la Cour suprême, les points de tension entre la Pologne et l'UE se sont multipliés entre 2015 et 2023, mais le retour de Donald Tusk au pouvoir a aussi marqué le retour de la Pologne dans les valeurs européennes. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Investiture ce matin à Moscou de Vladimir Poutine pour un cinquième mandat à la tête de la Fédération de Russie, en présence entre autres de l'ambassadeur français qui était convoqué hier pour dénoncer la politique considérée comme provocatrice de Paris concernant la guerre en Ukraine. Le président français avait évoqué la semaine dernière la possibilité d'envoyer des troupes occidentales sur le terrain. Dans le même temps, toujours hier, le président russe a ordonné des manœuvres nucléaires près de la frontière ukrainienne, présentant cette décision comme une réaction forte et immédiate donc aux propos d'Emmanuel Macron, mais aussi une réaction aux propos du ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron. Il avait donné son feu vert à l'emploi de missiles britanniques contre le territoire russe. À Moscou, Jean-Didier Revoy.
Vladimir Poutine a ordonné la tenue de manœuvres pour entraîner les forces armées à la préparation et à l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques. Si on ne connaît pas la date de ces exercices, on sait en revanche que l'aviation, la marine et des forces du district militaire du Sud y participeront, des troupes basées à proximité immédiate du territoire ukrainien. Moscou répond donc par la surenchère à la possibilité évoquée par Emmanuel Macron d'envoyer des soldats de l'OTAN combattre aux côtés des forces ukrainiennes, une façon aussi de mettre Kiev en garde directement. Moscou est prêt à répondre si d'aventure les autorités ukrainiennes décidaient de frapper le territoire de la Russie à l'aide de missiles britanniques en vertu du feu vert octroyé par le chef de la diplomatie du Royaume-Uni, James Cameron, la semaine dernière. Force est de constater que l'escalade se poursuit avec toujours plus d'intensité pour défendre la souveraineté de la Russie, alors que sur le front, les troupes ukrainiennes cèdent du terrain et que des armes nucléaires tactiques russes ont été déployées au Bélarus l'été dernier. Jean-Didier Revoy, Moscou pour Radio Vatican.
Et dans cette guerre en Ukraine, les Occidentaux comptent beaucoup sur la Chine pour faire pression sur la Russie. Le président français, qui accueille jusqu'à aujourd'hui son homologue chinois, espère ainsi le convaincre d'infléchir la position russe. Xi Jinping a cependant appelé hier soir à Paris à ne pas salir son pays dans ce dossier, estimant que Pékin joue un rôle positif. Il s'est engagé à soutenir par ailleurs une trêve olympique pendant les Jeux de Paris cet été. Une trêve qui est une absolue nécessité, c'est ce qu'a affirmé hier au Vatican le préfet du Dicaster pour la culture et l'éducation. Plus de précisions sur ces derniers propos sur notre site internet www.vaticannews.va. Xi Jinping est donc en visite en France depuis deux jours et jusqu'à ce soir. Ce déplacement à un mois des élections européennes s'est déroulé sur fond de tensions commerciales entre les puissances américaines, chinoises et européennes. Les États-Unis se sont déjà éloignés du marché chinois depuis la présidence Trump avec une hausse des taxes douanières et la Chine craint que l'Union européenne suive le même chemin. Dans ce contexte, de nombreuses questions émergent sur les solutions pour le marché européen réunissant les 27 États membres de se défendre et de garder une forme de souveraineté économique. Mais laquelle ? Interrogé par la rédaction de Radio Vatican, Jean-Marc Sirouin, professeur émérite d'économie à l'Université Paris-Dauphine, nous explique les outils dont dispose l'Union européenne dans cette bataille commerciale entre grandes puissances mondiales.
Elle dispose d'outils, alors ils sont un peu plus difficiles à utiliser qu'un pays comme les États-Unis. Donc ils ont été renforcés, il y a des enquêtes en cours, notamment sur les importations d'automobiles, qui sont accusées d'être subventionnées illégalement. Donc les instruments, on les a, il faut qu'il y ait néanmoins une volonté européenne suffisante pour les appliquer. L'Allemagne, par exemple, est un peu hésitante parce qu'elle a peur des représailles. Comme c'est un grand marché, la Chine est un grand marché pour l'Allemagne, mais elle craint davantage que la France, par exemple, les représailles chinoises.
Quelles sont concrètement les mesures dont dispose l'Union européenne dans cette bataille commerciale ?
Vous avez deux types d'instruments. Vous avez des instruments commerciaux qui, eux, relèvent de l'Union européenne. C'est une augmentation de droits de douane, ça va s'appeler droit anti-dumping ou droit anti-subvention. Et ça, c'est du ressort de la Commission européenne, de Madame von der Leyen et des 27 pays membres. Par ailleurs, vous avez des instruments nationaux qui sont utilisés. Ce sont par exemple les subventions, et notamment les subventions à la consommation, et qui sont conditionnées à ce que, par exemple, les automobiles ne soient pas des automobiles chinoises. Et là, ça relève des États, ce qui permet de contourner un peu les délais qui sont nécessaires lorsqu'il s'agit de mettre en place des instruments traditionnels comme l'augmentation des droits de douane.
Les deux plus gros marchés pour la Chine sont évidemment les États-Unis et l'Union européenne. La Chine craint-elle un renforcement des mesures anti-dumping en Europe ?
L'Europe est quand même un grand marché pour la Chine. Hein. Donc si la Chine n'a plus le marché européen, c'est évidemment compliqué. Hein. La Chine est inquiète. L'Europe n'est pas un petit nain économique incapable de résister à la Chine. On a l'image d'une Chine dominante qui va dominer de plus en plus le monde. On voit moins que la Chine est un pays en crise profonde, avec un modèle qui ne fonctionne plus aussi bien que ce qu'il avait fonctionné. Et d'une certaine manière, l'agressivité chinoise, notamment politique commerciale, c'est un peu une fuite en avant. Hein. Donc non, il ne faut pas voir la Chine comme un pays invulnérable qui va devenir la grande puissance, dépasser les États-Unis dans les 20 ans qui viennent, ce qui était un peu le discours qu'on entendait il y a 10 ans, mais qui ne correspond plus du tout à la situation chinoise. Le modèle chinois, qui est une forme de capitalisme d'État basé sur la planification et les subventions, c'est un modèle qui a conduit à des surcapacités de production, et ce qui explique d'ailleurs les difficultés qu'on peut avoir avec la Chine, puisque pour écouler cette surproduction dans les batteries, dans les panneaux solaires, etc., ils pratiquent des prix qui sont extrêmement bas.
L'Union européenne a-t-elle les moyens de se défendre contre les géants chinois et américains ?
Le problème de l'Union européenne, des États-Unis aussi, mais la sensibilité est plus forte sur la dépendance de l'Europe vis-à-vis de certaines productions. Donc c'est ce qui domine, rendre l'Europe moins dépendante, et notamment moins dépendante de la Chine, qui conduit à soutenir des secteurs qui risquent d'être complètement dominés par la Chine. Je pense notamment aux batteries électriques, où la Chine est particulièrement dominante. C'est s'assurer des approvisionnements dans les matières stratégiques et éviter la domination chinoise ou américaine dans les nouvelles technologies qui vont de l'intelligence artificielle aux batteries électriques.
Jean-Marc Sirouin, professeur émérite d'économie à l'Université Paris-Dauphine, était ce matin l'invité de la rédaction francophone de Radio Vatican. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h hors de Rome. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre site internet www.vaticannews.va ainsi que sur notre page Facebook et notre compte X. Excellente journée à toutes et à tous.